Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Alliance Plus. Bienvenue pour mon émission Dans nos communautés. Et voilà, je vous retrouve après un été bien chargé. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous n'avez pas été trop incommodé par la canicule et que vous êtes en forme pour la reprise de Radio Alliance Plus et de l'émission Dans nos communautés, que voilà. Et aujourd'hui, nous parlons du centenaire de Henri Lindegaard. Henri Lindegaard était pasteur et peintre. Beaucoup d'entre vous le connaissent ou ont eu l'occasion de voir certaines de ses peintures, notamment la Bible des contrastes. Et donc, c'est tout un panel d'expositions qui a lieu en ce moment au Musée du Désert, au Temple de Mialet, et au temple d'Anduze. Il y a eu aussi des conférences et aujourd'hui, vendredi 29 août à 18h30, donc exactement en même temps que mon émission que vous écoutez maintenant, une conférence est donnée par Malène Leloup intitulée « Mon rôle d'artiste ». Malène Leloup est artiste peintre et elle a connu Henri Lindegaard. Elle a fait plusieurs stages avec lui et donc je vais vous proposer d'écouter une partie de sa conférence qu'elle a bien voulu enregistrer pour moi aujourd'hui. Voilà, je vous laisse l'écouter et puis nous nous retrouvons pour la fin de cette émission.
Je vais donc vous parler d'Henri et de ce que j'ai compris de sa peinture, de sa pédagogie et de sa façon originale de nous enseigner. Pour ça, il faut se souvenir de la grande force qui émanait de sa personne, de sa voix, de son économie de mots qui en donnait toute la puissance. Cette force se manifestait à travers ses aquarelles, par les sujets qu'il choisissait, par la simplicité de ses constructions, et par sa quête de lumière et la force de ses couleurs. Il nous disait « Ne peignez pas avec des lions piqués à la morphine !» Il allait toujours à l'essentiel. Le jour où j'ai découvert le Malacroix, Henri est descendu de la terrasse, il avait une canne. Il s'est assis tranquillement au pied de l'escalier, il était imposant. J'entendais au-dessus de nous des voix, beaucoup de voix, des discussions, et j'avais terriblement envie de monter. J'étais en stage non loin de là, nous étions trois stagiaires. Le dimanche, nous avons sillonné les alentours, et Joël, ma collègue, m'a dit « Je sais qui peut t'apprendre à peindre !» Et elle m'a emmenée au Malacroix. Henri a inscrit mon nom au bas d'une liste de stagiaires, tout en me disant de sa voix rocailleuse « Je ne sais pas si je saurais vous apprendre à peindre. » Mais moi, je savais déjà que j'avais enfin trouvé la personne qui allait m'apprendre à peindre. Par ces simples mots qu'il nous répétait sans cesse, « Peins ce que tu vois et non ce que tu sais. » Et encore, « Ne recherche pas les effets. » Je savais que j'avais frappé à la bonne porte. Des règles, c'est le mot qu'il employait, rigoureuses. Des règles qui avaient un sens. Des règles que je prenais comme des balises et non comme des contraintes. Une technique formidable qui permettait les dégradés et que j'avais toujours eu envie de maîtriser. La découverte des merveilleuses aquarelles d'Henri, son échappée de la réalité, m'ont tout de suite entraîné sur le chemin qu'il nous proposait de découvrir. Découvrir avec lui que la poésie d'un tableau ne naît pas d'une recherche compliquée, mais tout simplement de coups de foudre avec la beauté de la nature, des formes et de la lumière à traduire de façon construite et épurée. Pour chacun de ces stages, Henri apportait un éclairage différent par le choix des sujets. un éclairage différent et pourtant si proches qu'ils finissaient par se rejoindre. Je crois savoir maintenant qu'en fait, ils nous menaient tous vers le même but. Voici quelques titres. La goutte d'eau, les métamorphoses, le vide et le plein, les passages et les contrastes, la règle de trois, le trois, la morula, la simplicité, intégration et imprévu, etc. C'était chaque fois comme des petites veilleuses de l'année. C'était comme des étoiles pour guider nos pas, des petits phares pour nos apprentissages. Mais sur le moment, comment savoir où ces chemins nous conduisent? Le but, le fil conducteur qui le faisait choisir un thème plutôt qu'un autre, tout cela restait mystérieux, du moins pour moi. Cette clé précieuse, je l'ai découverte une fois qu'il nous a quittés. Un peu comme une révélation. Comme un enfant qui découvre du jour au lendemain qu'il sait lire. Et je l'appelle mon rôle de peintre, créer des liens. Et pas seulement en peinture, avec mes lignes, mes lumières, mes ombres, mes couleurs, mais entre les gens aussi. Le jour où nous nous sommes réunis à Mialet, en septembre 96, juste après son décès, une collègue stagiaire, Marianne, m'a interpellée par ces mots. J'ai encore son visage devant les yeux. Et c'était une véritable requête, presque une injonction. « Il faut prendre la suite, Malène, nous en avons tellement besoin. Il ne faut pas que ça s'arrête, c'est indispensable. » J'avais sans doute besoin de ces mots pour oser marcher dans les pas d'Henri. Marianne n'est jamais revenue, je ne l'ai jamais revue, mais le message était passé. Et je ne suis pas seule à avoir envie de transmettre tout ce que nous avons reçu. Pour Mireille aussi, qui est parmi nous aujourd'hui, la transmission était essentielle. Elle a régulièrement rencontré Henri pour ses cours de peinture à Uzès. 2000 est arrivé, et pour moi la retraite de l'éducation nationale. Dans ma famille, c'était aussi un vrai chaos financier, c'est pourquoi je n'avais pas le choix. Je me suis lancée dans l'aventure et je me suis mise à potasser la question pour pouvoir la transmettre à ceux qui maintenant m'accordaient leur confiance. Créer des liens. Appuyer ma peinture, tous mes cours, mes stages sur ce principe. Je me suis plongée dans l'histoire de l'art, car on n'est pas peintre tout seul, mais en lien avec tous ceux qui se sont posés les mêmes questions et qui y ont trouvé leurs propres réponses. Et j'ai repris mes notes de stage. Je pense que là, je dois vous évoquer les stages d'Henri. Au Malacroix, il y avait d'abord ce lieu puissant et mythique, rempli de l'histoire avec un grand H, une histoire terrible, un lieu auréolé d'une force qui lui est propre. On est à 200 mètres du musée du désert. Mes notes sont souvent entrecoupées de recettes de cuisine. Glace au chocolat, soupe au persil, mayonnaise, gâteau à la noix de coco, des conseils de santé ou des titres de livres incontournables. Car nous restions longtemps sur la terrasse du Mas au moment du café, avec Béatrix, Anne, qui soufflait un peu après le coup de feu de la préparation des repas. Et la conversation allait bon train entre nous tous, pendant qu'Henri faisait la sieste. Ces liens-là étaient pour moi essentiels, presque familiaux. Je prenais pied petit à petit. Pour moi qui venais en juin, Béatrix et Anne sont indissociables des stages d'Henri. Elles assuraient ce qu'on appelle la logistique. Béatrix était l'âme de la maison. À elles deux, et avec beaucoup de gentillesse et de conviction, de vivacité, elles organisaient l'accueil. De telle sorte que le vivre ensemble était fraternel et solidaire, Elles étaient joyeuses et pleines d'entrain. Et il y avait pour aider à la cuisine toujours quelque chose de précis qui avait fait ses preuves. C'était reposant. Et là, on n'avait plus à se creuser la tête. Je découvrais un monde inconnu pour moi. Ce monde protestant dans lequel j'avais l'impression que tout le monde se connaissait. Il y avait ceux du Havre, dont Pierre Durand. Ceux de Paris, dont Yann Muir. Il y avait les anciens amis, dont Gilbert, de Sète, qui évoquaient leurs péripéties de jeunes étudiants. Il y avait beaucoup de vieilles dames résistantes, dont Jeanne Exbraya et Germaine Rivet du Chambon-sur-Lignon. Yvonne Rigaud et beaucoup d'autres. Des gens que j'admirais beaucoup et je buvais leurs paroles. Là aussi, c'était très fort et je tentais de m'acclimater à cette force. Il y avait des personnes exceptionnelles, un monde à part. Une plongée dans l'histoire, car j'étais dans les plus jeunes et l'histoire prenait chair grâce à elle. C'était pour moi assez impressionnant, car je les sentais très hardis. Ils avaient une assurance que je n'avais pas. Henri m'intimidait aussi beaucoup. C'est tout juste si j'osais lui parler. Je répondais juste à ses questions, alors que maintenant j'aurais plein de questions à lui poser. Ces stages étaient longs, souvent une douzaine de jours. Et je me suis toujours demandé comment Béatrix et Henri arrivaient à tenir le coup si longtemps pour animer ces stages. Béatrix travaillait encore comme infirmière à domicile et s'échappait matin et soir pour visiter ses patients. Tout en nous mijotant des plats inventifs, économiques et délicieux pour une vingtaine de personnes. Alors bien sûr, il y avait les pluches, la mise de table, la vaisselle et différentes responsabilités et services suivant nos dates de naissance. Il y avait ceux d'avant 14, dispensés d'à peu près tout. Les entre-deux-guerres, qui aidaient surtout pour ceux qui se faisaient assis. Et les après-guerres, qui assuraient le mieux possible pour le reste. Une réflexion de l'un d'entre nous, il n'y a plus qu'ici que j'essuie la vaisselle. Nous dormions presque tous en masse. Nos lits parfois séparés par des draps tendus, comme aux hospices de Beaune. Le matin, nous étions réveillés au son des pots de fleurs accrochés la tête en bas au balcon, frappés par le bâton du maître, « Maudit sois-tu, carillonneur !» Jean-Pierre Frère apportait toujours du Havre un café merveilleux qui emplissait nos narines et qui nous faisait sauter du lit, même ceux qui n'en buvaient pas habituellement. C'était toujours lui qui préparait le petit déjeuner, si bien qu'il était dispensé des autres services, et pouvait rester à table pour bavarder ou pour finir en douce ses aquarelles. Le cours du matin était précédé par le chant des psaumes, dominé par la voix forte d'Henri et une telle conviction. Il les ponctuait par des petits coups de poing sur la table. Et si ce n'était pas votre tasse de thé, comme on dit, il fallait se dépêcher pour ne pas manquer le début du cours, car il ne laissait aucun blanc. Et enchaînait aussitôt. Puis nous partions sur le lieu de peinture, suivant une caravane, souvent en caravane de voiture. Henri s'énervait après ceux qui retardaient le départ. Nous étions complètement absorbés par nos aquarelles, et les mouches, les abeilles pouvaient voler sans que nous levions le nez. Parfois, une odeur de menthe chatouillait nos narines. Le soleil tournait et les ombres avec lui, rendant impossibles les conseils d'Henri « Faites ce que vous voyez ». Les dimanches, nous faisions une pause, une courte grasse matinée, souvent un peu de lessive. Le culte amialait pour ceux qui voulaient. Le dimanche était pour Henri un jour de lien. Lien entre la semaine passée pour en faire le point et la semaine à venir pour y faire des projets. Le temps calme du dimanche, midi, après-midi, répondait à ses besoins. Et puis en juin, il y avait le yoga. Heureux yoga qui nous sortait un peu de notre concentration, de nos problèmes de couleur et qui permettait de ne pas nous noyer dans la goutte d'eau. C'est Anne qui animait avec beaucoup de plaisir ces séances de 18 heures. Nous comprenions à quel point le yoga nous sortait de nos tensions et forcément de la fatigue que demande l'apprentissage de la peinture, même si Henri, de temps en temps, nous voyant préoccupés, nous rappelait « Soyez heureux !» Nous étions hors du monde et hors du temps, et nous pouvions rester des heures à peindre, repeindre et re-repeindre, persuadés que la chose au monde la plus importante était de comprendre où Henri voulait en venir. Car la critique du soir était impitoyable, malgré les pointes d'humour. Elle nous attendait sans rémission possible. Il fallait afficher, c'était obligatoire. Tout le monde se réunissait après le repas du soir, à l'heure de la fraîche. Nous étions comme des enfants attendant la sentence du maître. Il avait l'habitude de parler des relations entre les humains et il nous parlait de la même façon des relations des éléments de nos tableaux entre eux. Il cherchait toujours le positif dans ce que nous finissions par montrer au regard de tous, la poésie par là, la joie émanant de tel ou tel petit arbre, le mystère d'un incompréhensible point sombre, et même le petit coin à gauche, grand comme un timbre-poste. Là, c'est bien. Qu'est-ce qui est important? Là, c'est très bien, mais si tu avais fait comme ci ou comme ça? Et les autres, comment ont-ils pensé le problème? Mais nous l'avons vu aussi se mettre vraiment en colère, et alors nous ne savions plus où nous mettre. Par exemple, à propos de l'eau d'une rivière passant sous un pont. Mais quelle audace de vouloir rendre la transparence de l'eau et le reflet du pont! Nous ne sommes pas Dieu, nous n'avons pas à copier la réalité. Que voulait-il dire? Question sans réponse immédiate, mais le fait est que nous avons cessé de peindre les reflets dans l'eau. Parfois, et c'était plutôt rassurant, c'était à nous de critiquer une autre pauvre victime. Gilbert critiquera Suzy. Suzy critiquera Germaine. Germaine critiquera Jean-Pierre. Il lisait nos noms sur des petites cartes qu'il tenait dans ses fortes mains comme un jeu de cartes. Simplement, il fallait trouver des choses pertinentes à dire, sans froisser ni décourager nos collègues. Mais c'était une bonne leçon. C'était un lien entre nous, un soutien que nous nous donnions les uns aux autres. Comme disait Proust devant une toile de Monet, savoir ce qu'un autre voit de cet univers qui n'est pas le même que le mien. Ensuite, nous étions délivrés, nous étions pardonnés, et nous n'avions plus qu'à aller nous coucher, perclus de fatigue. Certains trouvaient la force de faire quelques pas. Béatrix nous offrait du tilleul dans des petites tasses de porcelaine précieuse et transparente, mais ça ne durait pas longtemps. Et il n'y avait guère de problème de discipline. Quel univers extraordinaire il nous a été donné de découvrir et de partager. Un univers qui a changé nos vies et qui nous fait presque trembler d'émotion quand nous l'évoquons entre nous. Un univers dans lequel nous n'apprenions pas seulement à peindre, mais aussi à vivre ensemble, des liens très forts. Une vie communautaire pendant cette douzaine de jours. Que ce soit pour peindre, pour chercher pourquoi et comment faire, pour transmettre aux autres sans imposer telle ou telle façon de faire, mais pour aider à découvrir sa propre manière avec respect et exigence, pour apprendre une technique d'aquarelle formidable, pour organiser des séjours de peintre, Henri m'a tout appris. Mes stages. Ils étaient donc faciles à organiser, j'avais la clé. Alors, de quoi s'agit-il sur la page blanche? Voilà les questions que se posent les peintres. Ce sont les mots d'Henri et sa façon si particulière de parler peinture qui nous faisait comprendre comment habiter nos papiers avec des lignes qui se parlent entre elles pour s'accompagner ou s'opposer. Chercher des lignes qui se rappellent, quitte à les déformer, pour créer une conversation entre elles. Créer des liens entre les points forts de ma peinture en les faisant communiquer. Faire que ces points forts fassent circuler le regard et qui va se promener sur la surface du papier pour créer un espace vivant. Créer des ouvertures dans les contours des formes, des lieux de respiration. Comment faire venir la lumière, des lumières qui se répondent, les faire naître de l'ombre. Comment manier les couleurs pour qu'elles se fassent chanter les unes les autres, au lieu de s'étouffer ou de rivaliser. Pour moi, ce tableau illustre très bien comment il est possible d'habiter son rectangle de papier. C'est sans doute qu'il a découvert avec Albert Gleizes, son professeur. Comment le sujet, accompagné de lignes puis de surfaces qui le rappellent, l'encadre, s'élargit jusqu'aux limites du papier. Comment, par le jeu des valeurs et des couleurs plus ou moins intenses et leurs rappels, le regard est dirigé, amené à circuler sur l'ensemble du tableau. Il y a une économie de couleurs, ici le jeu orange-bleu, couleur complémentaire. Ce sont toutes ces réflexions techniques qui nous faisaient comprendre comment manifester l'âme d'un paysage, d'une bouteille, d'une pomme, et surtout, découvrir que ce sont les surfaces voisines sur lesquelles je dois porter mon attention, davantage que sur les formes et les lumières elles-mêmes. C'est la voisine qui crée la forme. Dans ce dessin, tout en symbole, les formes des personnages qui se font naître les unes les autres. Là où les formes de la main font naître une foule de personnages. Nous naissons de la main de Dieu. Et ce qui est manifeste dans les dessins de la Bible des contrastes se retrouve dans ces aquarelles. C'est l'ombre, le foncé d'une surface qui apporte la lumière sur sa voisine. C'est le rapport entre deux couleurs qui les font chanter l'une l'autre. C'est ce lien essentiel qui fera tout. Et puis bien sûr la goutte d'eau, pure et transparente, qui nous permet d'arriver à une densité de couleurs intenses, même parfois saturées, sans brusquer le regard, en douceur, créant un lien entre le réel et l'irréel, la lumière et la force colorée. C'est pour moi l'essentiel de la technique d'Henri. Il truffait son enseignement de petites sentences faciles à retenir. Ferme les yeux pour mieux voir. Peins ce que tu vois. Ne confonds pas le sujet et le tableau. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne dis qu'une seule chose à la fois. Ne dispose pas tes nuages au petit bonheur la chance. Le gris est complément idéal de toute couleur. Le stage qu'il avait appelé « métamorphose » était mon premier stage. C'est un mot étrange lorsqu'on n'a encore jamais fait de peinture et que l'on imagine seulement qu'il s'agit d'acquérir une technique. Un mot du domaine de la magie. Un mot qui est la clé de la création. Mais comment en comprendre toute la portée lorsqu'on débute, lorsqu'on débarque ? Ne confonds pas le sujet et le tableau. Mystère, mais que veut-il dire par là? Et c'est seulement des années après que l'on vit cette métamorphose qu'on la saisit dans toute sa vérité. Je vais vous lire un passage du texte d'Henri sur le peintre et l'arbre. Par une sorte de miracle, l'homme regarde un arbre, et l'arbre regardé sont introduits dans une mystérieuse relation qui change tout. L'homme cesse d'être un homme seul et devient un homme devant un arbre. Et l'arbre devient beaucoup plus qu'une image, plus qu'un mouvement. L'arbre se révèle, on dirait qu'il se transfigure, qu'il s'éclaire et qu'il fait briller l'œil qui le regarde. Tout le reste perd de l'importance et semble s'évanouir. Voici comment la relation qui naît entre le peintre et son sujet amène cette métamorphose. Je décide de peindre ce sujet parce qu'il me parle, parce qu'il me séduit. Je m'installe devant lui et je le regarde. Je le regarde longuement, je le scrute et je commence à tracer ses formes. Toutes les petites phrases d'Henri m'aident à composer mon dessin avec son centre d'intérêt bien placé, etc. Je suis devant le sujet. Petit à petit, un dialogue s'instaure avec lui, une connivence. Nous ne sommes plus étrangers l'un à l'autre. Nous nous connaissons, comme avec une maison qu'on a longtemps habitée. Je peux commencer à prendre mes pinceaux, mon bocal d'eau, mes couleurs, et d'un coup, je me rends compte que je ne regarde plus le sujet. Il est en moi. La métamorphose s'est opérée. Je peux plier bagages et m'installer confortablement sur la table de la salle à manger pour continuer ma peinture. L'arbre, la maison, le pont ou le bateau est en moi. Le tableau prend son autonomie. Il n'y a plus qu'échange des formes entre elles, échange des lumières avec les ombres, échange des couleurs entre elles. Ces changements successifs dispersés sur la surface du papier permettent de créer des liens entre tous les éléments. Ces métamorphoses créent une cohérence, créent une image nouvelle. Lors d'une séance de critique pendant ce stage, une phrase. Je m'en souviens très bien, une phrase d'Yvonne Rigaud a fait éclair en moi. Alors, ça évite les solitudes ? Eh bien oui, cet échange entre les couleurs, les lignes, les lumières, le flou et le net, les contrastes et les passages, évite les solitudes. Et la vie entrait avec ce mot-là dans le nouvel éclairage qu'il donnait à l'acte de peindre.
Chers auditeurs et auditrices, vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous écoutez bien le 103.2 et vous pouvez aussi nous écouter en DAB+ ou bien sur nos podcasts en allant sur radioallianceplus.fr bien sûr. Voilà, vous venez d'entendre une conférence de Malène Leloup. Malène Leloup est artiste peintre. Elle a connu Henri Lindegaard, dont nous fêtons le centenaire. Il était pasteur et peintre et elle a eu l'occasion de faire des stages avec lui. Et elle a donc beaucoup reçu et c'est un peu un hommage qu'elle lui rend aujourd'hui par cette conférence. Vous pouvez regarder, voir, admirer des peintures de Henri Lindegaard au Musée du Désert jusqu'au 30 novembre et au Temple d'Anduze jusqu'au 13 septembre. Il y aura aussi une conférence au Temple d'Anduze le jeudi 4 septembre à 18h30, Influence de l'enseignement d'Henri Lindegaard par Pierre Hédric. Voilà, vous savez tout et vous pouvez donc aller courir dans ces différents lieux pour admirer les œuvres de cet artiste peintre et pasteur qu'était Henri Lindegaard. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine.